Bonjour, Raymond Richard au micro, vous êtes sur Radio Grand Ciel et nous sommes dans l'émission Histoire d'en savoir plus. Et aujourd'hui, pour cette émission, je reçois Monsieur Kirzin. Bonjour Michel Kirzin, merci d'être à Radio Grand Ciel pour nous parler du tai chi.
Oui.
Alors, c'est quoi le tai chi? Et puis comment vous y êtes venu?
Le tai chi, il y a différentes formes de tai chi d'abord, il faut le savoir. Et au départ, c'était un art d'autodéfense en fait. C'était une façon pour les paysans ou pour les gens, pour les moines qui parcouraient la Chine, de se défendre contre les violences, les brigands qu'ils pouvaient trouver sur leur chemin. Et donc, ce sont des techniques qui sont d'autodéfense, c'est-à-dire que à main nue essentiellement, mais aussi avec des armes. Parce que le tai chi, on le voit pratiqué dans les parcs, même dans la rue, à main nue, mais ça se pratique également avec des armes. Et c'est une des raisons pour lesquelles les techniques de bâton ont été largement développées par les moines qui se promenaient, enfin qui voyageaient qui avaient une canne qui était un bâton qui était une façon de se défendre, et c'est extrêmement efficace évidemment.
C'est extrêmement efficace.
Oui. En fait, tai chi ça veut dire en chinois boxe du fait suprême. C'est-à-dire que c'est une façon à la fois de lutter contre les autres, mais aussi de lutter contre soi-même, puisque on est obligé de, il y a un apprentissage, il y a des techniques qui étaient au départ secrètes, bon, il y en a peut-être toujours, je sais pas, mais qui datent depuis des siècles et des siècles, mais qui ont été récemment codifiées, disons, un peu plus codifiées, depuis le XVIIe siècle, XVIIe siècle. On retrouve des écrits chinois où des maîtres parlent de leur façon de pratiquer. Ce qui fait qu'il y a en fait de nombreuses écoles et de nombreux styles. Mais les principes de base sont toujours les mêmes.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu au tai chi? Et puis aussi, qu'est-ce qui explique cet engouement, si j'ose dire? C'est peut-être pas un engouement d'ailleurs. Que cela intéresse autant les Occidentaux, parce que finalement, ça n'est pas de cette culture-ci.
Oui. En ce qui me concerne, j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie. Et puis, il arrive un moment où je crois qu'on a moins envie d'exprimer extérieurement son besoin physique, et donc de le faire plus intérieurement, et tout en pratiquant quand même quelque chose qui est malgré tout physique, mais qui n'est pas exprimé, j'allais dire violemment, comme peut l'être même la course à pied. La course à pied, ça reste quand même violent. Et puis, d'autre part, il n'y a pas du tout d'esprit de compétition dans le tai chi, même si actuellement les Chinois voudraient bien que le tai chi entre aux Jeux Olympiques, parce que ça leur permettrait sans doute de récupérer quelques médailles supplémentaires. Mais c'est une façon aussi, peut-être, moi j'ai commencé à en faire vers 50-55 ans, donc on est moins actif extérieurement, et je recherchais sans doute, peut-être plus ou moins consciemment, une activité plus intérieure. Donc ce qui fait que j'ai commencé à pratiquer, et puis je me suis rendu compte que le tai chi, c'était en fait un apprentissage qui n'avait pas de fin, parce qu'on pouvait toujours progresser, à la fois sur le plan des techniques différentes, parce que chaque geste ayant une signification martiale, on peut toujours aborder une attaque et une défense de façon différente. Donc il y a toujours de multiples façons de répondre selon sa position, etc.
Donc là, on a des positions différentes, des bras, des jambes, corps.
Oui, des postures.
Des postures.
Oui.
Quelle relation avec le yoga?
Le yoga...
Il n'y en a peut-être pas, d'ailleurs.
Je pense que si, il peut y en avoir. Le yoga est beaucoup plus statique. Ce sont des postures, mais qui sont statiques. Et le yoga, à mon sens, serait peut-être plus en relation avec le Qigong, qui est, lui, beaucoup plus statique.
C'est-à-dire une sorte de tai chi statique.
Voilà.
Qui nous amène à voir qu'il y en a plusieurs sortes.
Voilà. Et d'autre part, le tai chi se pratique toujours debout.
Ah oui.
D'accord. Alors que le yoga, lui, peut se pratiquer couché. Il y a des postures où on a au contraire une inversion entre les pieds qui sont en haut et la tête en bas, avec des postures difficiles à tenir. Alors que le tai chi, comme c'est au départ, faut quand même pas oublier que c'était un art de combat, donc on est toujours debout. Il faut toujours être en position, soit d'attaque, soit de défense.
Est-ce que cela aussi une influence sur l'univers cérébral?
Ah ben, à mon avis, c'est un des aspects les plus intéressants du tai chi. Parce que je pense que précisément, l'effort que nécessite l'apprentissage du tai chi, comme je vous le disais à l'instant, qui n'est jamais terminé, on peut apprendre toute sa vie absolument. Il y a toujours quelque chose à apprendre, des détails, même les grands maîtres apprennent.
Et après, ils apprennent de qui?
Bah parce qu'ils peuvent eux-mêmes, ils peuvent eux-mêmes découvrir quelque chose dans leur pratique personnelle. Et puis, ils sont évidemment, surtout aujourd'hui, on est forcément en contact avec les uns et avec les autres. Donc, il y a des colloques, il y a toute une organisation autour du tai chi, aussi bien en Chine que dans le monde entier. Donc, il y a toujours matière à apprendre quelque chose.
Des rencontres où on est les uns contre les autres, comment ça se passe? Parce que vous évoquiez un art martial. Est-ce que dans une séance de tai chi, on travaille avec quelqu'un d'autre ou bien est-ce qu'on travaille chacun en relation avec le maître?
Oui, j'ai compris. Donc là, effectivement, généralement, le tai chi tel qu'il est pratiqué chez nous, enfin tel qu'on le voit là, on pratique seul ou presque. Alors seul, ça veut dire qu'il y a tout un apprentissage du geste qui est mille fois et mille fois répété pour arriver à une espèce de
précision,
peut-être pas de perfection, mais en tous les cas de précision. Donc qui est un travail donc là strictement personnel. Et c'est là où est précisément l'esprit, enfin le cerveau est largement mis à contribution. Parce que ça nécessite un effort constant. Et voilà. Et on pratique également, comme c'est un art martial, on le pratique également à deux. On apprend, chaque geste ayant une signification défensive et ensuite éventuellement offensive. Donc quelqu'un va vous attaquer d'une certaine façon et vous allez mettre en œuvre le geste que vous venez d'apprendre. Ça, c'est la pratique quotidienne. C'est pour les gens qui ont une activité plus martiale. Il y a des écoles qui, elles, sont beaucoup plus internes, où on apprend pratiquement que le geste sans trop s'occuper de sa signification. C'est autre chose. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle le Toishu, qui est une discipline apparentée au tai chi, qui se pratique à deux. Et là, par contre, il y a des compétitions. Alors, le Toishu, c'est-à-dire que vous avez deux adversaires, un petit peu comme les sumo au Japon, qui sont dans un cercle, ils sont face à face, et il y en a un qui va mettre... On a une position de départ qui est souvent, par exemple, poignée contre poignée, et à partir de là, on va se mouvoir, mais à pas fixe, c'est-à-dire que les pieds restent ancrés au sol et ne bougent pas, et on cherche à déséquilibrer l'autre jusqu'à ce qu'on émette... la force donc intérieure, celle qui émane de l'intérieur, le chi, et qui va déséquilibrer l'autre et le faire sortir du cercle. Et il y a d'autres
parts. Une force intérieure ou la pression physique?
Il y a la pression physique, mais il y a une force intérieure. Et ça, c'est un petit peu difficile pour nous de le comprendre, mais quand on l'a éprouvé, soit face à un maître qui vous bouscule sans vous toucher, c'est quand même assez étonnant. Et puis justement, la pratique du tai chi permet de développer cette force intérieure. Parce qu'en fait, tous les gestes, il y a toujours la pensée suit toujours le geste.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de reparler de ça, parce que ça me paraît bien intéressant, cette ouverture vers la force intérieure. Une pause musicale d'abord. Bien, nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Histoire d'en savoir plus et avec Monsieur Kirzin, nous parlons du tai chi. Et juste avant la pause musicale, on évoquait cette énergie intérieure. Alors parlons un peu de cette énergie intérieure, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est cette énergie intérieure? Parce que, a priori, on a l'impression, moi j'ai l'impression, je dirais, c'est la pulsion de vie tout bêtement, mais...
C'est aussi la pulsion de vie, c'est sûr, mais justement, là, elle est comment dire, c'est très difficile à dire parce que c'est assez conceptuel pour un occidental, et tant qu'on ne l'a pas ressenti soi-même, soit vis-à-vis d'un maître, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça, je l'ai éprouvé, ou qu'à des moments, on sent que, intérieurement, on a une espèce de force intérieure qui se dégage. C'est assez difficile à expliquer, j'ai un petit peu de mal.
Alors, commençons déjà par les choses toutes simples. Quand vous faites du tai chi, est-ce qu'il y a à chaque moment, ou bien est-ce que c'est un peu exceptionnel, où vous ressentez justement cette force intérieure qui passe en vous, qui pénètre en vous, et qui vous mobilise pour faire les gestes?
Déjà, une séance de tai chi, ça commence par une préparation. En gros, sur une séance qui va durer une heure, un quart, une heure et demie, il peut y avoir jusqu'à trois quarts d'heure de préparation.
De préparation?
Oui. Alors, je peux vous en parler de la préparation?
Oui, ça me paraît
parce qu'elle est très importante. En gros, elle se divise en quatre sections. La première, c'est un relâchement. On fait des exercices de relâchement du corps. Ensuite, on va faire des mouvements d'étirement du corps, donc qui vont permettre d'étirer toutes les parties du corps, du gros orteil jusqu'aux dernières cervicales. Tout le corps bouge dans tous les sens. Ensuite, il va y avoir un travail sur la respiration. Ça, c'est un travail très important, sur lequel on va, à ce moment-là, travailler l'ancrage. Parce qu'il y a différentes formes, il y a différentes façons de respirer. Soit pulmonaire, soit plus pulmonaire, qui est notre respiration classique,
automatique.
Mais il y a aussi une respiration dite abdominale. Et abdominale normale ou abdominale inversée. Alors abdominale normale, ça veut dire qu'à l'inspiration, le ventre gonfle et à l'expiration, il se rétracte. Et la respiration abdominale inversée, c'est l'inverse, c'est-à-dire on inspire en contractant les abdominaux et tous les muscles du périnée, et ensuite à l'expiration, le ventre gonfle. Ce qui fait que sur un plan strictement médical, je dirais...
Oui, ce que j'allais vous poser comme question, mais c'est ça, peut-être un intérêt médical, tout ça.
Eh bien justement, l'intérêt médical, c'est que là, on a un brassage totalement de tous les organes internes, du foie jusqu'à l'intestin, jusqu'au pubis. Ça, c'est très, très évident. Et puis donc, d'où l'importance du diaphragme, puisque le diaphragme fait la séparation entre
la cage thoracique
et l'abdomen. Et donc, le diaphragme est fortement mis à contribution. Et donc, plutôt que de se rétracter, ce qui se passe généralement dans nos vies, si on ne fait pas de sport particulièrement, et en particulier en vieillissant, on va moins le mettre en œuvre. Même quand on fait un sport classique, que ce soit de la course à pied ou qu'on aille dans une salle faire du cardio-training ou de la natation, le diaphragme va évidemment beaucoup bouger. Mais là, on le fait bouger, je dirais, plus en conscience, puisque la pensée suit toujours le geste. Donc, quand on fait ces exercices, c'est ce qui est assez difficile à faire. Et c'est pour ça que, si vous voulez, il y a un travail intéressant et important sur l'effet cognitif du tai chi, puisqu'il oblige toujours l'esprit à être présent dans l'instant.
Oui, c'est pas simplement le corps qui bouge. Alors j'ai compris, le corps bouge, qu'il y avait la respiration, l'ancrage, et puis quoi encore, la quatrième partie?
Et donc la quatrième partie, c'est justement ce travail plus sur le chi, ce qu'on appelle le chi, donc l'énergie intérieure, qui s'apparente à des qigong.
Donc ça, c'est le travail de préparation. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait dans la séance?
Et ensuite, on va apprendre ce qu'on appelle la forme. C'est-à-dire que la forme, dans ce que moi j'ai appris jusqu'ici, donc dans le style Yang, parce qu'il y a différents styles, donc j'en ai parlé déjà très rapidement tout à l'heure, il y en a qui sont plus ou moins rapides, plus ou moins martiaux, et donc on apprend la forme. Donc la forme, c'est on apprend un certain nombre de gestes, donc qui sont toujours martiaux, avec donc une précision qui est affinée au cours du temps et qui permettent d'appréhender une attaque sous tous ses angles, en fait. Puisqu'on apprend à utiliser aussi bien la main pour repousser que le coude, que l'épaule, que le genou, qu'il y a énormément de coups de talon, il y a des balayages exactement. Donc quand on voit les gens tourner sur un pied, c'est parce qu'il y a une attaque qui se fait d'une façon, ou des positions de main qui permettent de contrôler un adversaire, et pendant qu'on va repousser un autre. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la forme. Et la forme, c'est un apprentissage qui est donc assez long, et qui consiste en, classiquement en 108 mouvements.
Alors, comme vous dites, la forme, est-ce que ça remet en forme, justement? Parce que quand vous évoquez le travail qu'on fait sur le pouce, le doigt de pied ou le coude, j'imagine que pour faire travailler de façon cohérente toutes ces parties du corps, ça me paraît compliqué quand même.
Eh bien, justement, c'est tout ce travail intérieur de concentration, parce qu'en fait, ça permet d'avoir une très grande concentration, parce que le corps, je pense que ce qui fait beaucoup de bien, c'est que, enfin moi, ce que j'ai parfaitement bien ressenti, c'est que toujours après une séance de tai chi, mais même quand j'en fais chez moi tout seul, parce que j'en fais quasiment tous les jours, on se sent plus unifié. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, quand on va en Chine en particulier, ou même aux États-Unis, quand on voit les Chinois travailler dans les parcs, ils en font le matin. Parce que je pense que ça permet de mettre le corps en forme pour pouvoir affronter la journée, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental, en fonction des stress qu'on peut avoir dans le travail ou autre. Donc c'est un travail, à mon avis, unifiant. Et d'ailleurs, lorsque j'ai débuté le tai chi, il y a maintenant une quinzaine d'années, je rentrais des premières séances, j'étais comme épuisé. Mais pas épuisé au sens physique, comme quand on a fait un gros effort, qu'on a marché toute la journée en montagne, ou qu'on a fait un semi-marathon, ou 5 km à la natation. Pas du tout. C'est une espèce de fatigue, une espèce de grand relâchement intérieur et extérieur. Et c'est une sensation, très, très pleine, je dirais, malgré le vide intérieur. Et c'est ça, c'est toujours ça, l'expression du tai chi entre le vide et le plein.
Donc, vous évoquez donc tension entre le vide et le plein. Donc, ça me semble-t-il, a une relation avec des pratiques de méditation ou des pratiques d'hypnose, non ?
Hypnose, non, parce que là, au contraire, on est toujours. On est toujours très conscient et on est au contraire, à mon avis, encore plus conscient que dans un état. S'il y a un état modifié de conscience, il va plutôt vers une hyper-conscience que vers une hypo-conscience. Et donc, d'ailleurs, le tai chi.
Pas l'hypnose.
Voilà.
Du coup.
Oui, mais c'est autre chose. Hein. Le tai chi, on considère que c'est une méditation en mouvement, en fait. À la différence de toutes les traditions, que ce soit occidentale, chrétienne, orthodoxe, musulmane, bouddhiste, taoïste, etc., et zen, hein, on voit toujours les moines zen dans les monastères, en fait, quand ils font de la méditation, bon, ils la font de façon statique. Mais le tai chi, c'est une méditation en mouvement.
L'intérêt que l'Occident porte, et notamment sur le plan médical, puisque vous évoquiez aussi l'intérêt que l'on a pour cette ressource, à la fois pour l'entretien du corps, si j'ose dire, mais aussi pour l'entretien de l'âme, l'entretien de l'esprit, du cerveau. de nos petits neurones.
Oui, oui. Alors, ce qui est absolument sûr, c'est que la souplesse peut être améliorée quasiment à tout âge de la vie en pratiquant le tai chi. Alors l'avantage aussi du tai chi, c'est qu'on peut le pratiquer, comme la lecture de Tintin, de 7 à 77 ans et bien au-delà, parce que il n'y a aucun mouvement qui se fait normalement en dehors de notre physiologie. Donc on peut toujours le pratiquer sans se faire mal. Si on se fait mal, c'est parce qu'il y a une mauvaise pratique, il y a des gestes qui sont mal faits, et parce qu'on pousse au-delà du centre de gravité, etc. Parce qu'on reste toujours dans son propre centre de gravité, dans son propre périmètre de sustentation. Donc, il n'y a pas de souci. Normalement, on ne doit pas se faire mal en faisant du tai chi.
On ne doit pas se faire mal, on ne doit pas tomber.
On ne doit pas tomber, sauf dans certaines pratiques, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur le tai chi, où il y a des compétitions. Mais ce n'est même pas tomber au sens judo du terme. C'est simplement déséquilibrer l'autre pour lui montrer qu'on est le plus fort, qu'on est meilleur que lui, et que ce n'est pas la peine. C'est pour l'inciter plutôt à abandonner un combat qu'à le maîtriser et à le tuer. Donc la souplesse, ça c'est un élément absolument certain. Et je connais beaucoup de gens qui pratiquent le tai chi, qui ont eu des problèmes de coxarthrose, qui ont eu des problèmes neurologiques, des polio étant gamin, des problèmes de dyslexie ou autres, qui voient leur état, même à n'importe quel âge, s'améliorer, parce que précisément le fait de bien se concentrer sur son geste améliore la coordination et donc tout ce travail de cognition au niveau du cerveau droit et du cerveau gauche.
Ça, c'est... Y compris la dyslexie ?
Oui, la dyslexie, oui. Enfin, certains types de dyslexie. Moi, je connais des gens qui ont des petits problèmes de dyslexie et qui ont trouvé qu'ils se sentaient mieux. Donc, en étant adulte, hein, parce qu'en fait, on voit très peu d'enfants pratiquer le tai chi parce que c'est sans doute un peu trop lent ou ça correspond pas. Mais d'ailleurs, la plupart du temps, on démarre jeune en faisant du kung-fu qui est beaucoup plus extérieur et beaucoup plus extérieur, c'est le terme qu'on emploie. Après, on vient au tai chi et puis en vieillissant, on passe plutôt au qigong. Mais on peut le faire dans tous les sens. Mais la pratique moyenne du tai chi, c'est quand même des adultes. Et parce qu'on se rend compte, médicalement, d'ailleurs c'est beaucoup étudié actuellement, en particulier donc sur le système immunitaire.
Le système immunitaire.
Oui, parce que les... Bon... Par rapport à la médecine, comme je l'ai dit également, le tai chi, c'est une partie de la médecine chinoise qui fait partie de l'ensemble de la médecine chinoise où il y a une pharmacopée, comme nous, ils ont leurs plantes, etc. Il y a également l'acupuncture.
Il y a des manières de traiter, donc.
Il y a une manière de traiter, donc de différentes façons. Il y a la moxibustion, enfin, il y a plein de choses. Et le qigong et le tai chi font partie des techniques de médecine utilisée en Chine. Alors, nous maintenant, évidemment, les Occidentaux, avec notre respect cartésien, on cherche à comprendre comment ça marche. Donc, on sait très bien, au niveau de la souplesse, ça, c'est une affaire acquise, et en particulier au niveau du traitement de Parkinson. Parce que ça oblige l'effort que l'on peut faire sur un geste de concentration fait qu'on arrive à contrôler une main, un pied, ou, enfin un mouvement déséquilibrant lié à la maladie de Parkinson. Alzheimer, je ne sais pas. Mais,
vous évoquez l'hypertension.
L'hypertension, ça c'est sûr. Ben parce que par la respiration et cette espèce de calme intérieur qu'on essaye de reproduire en fait dans son quotidien, parce que l'intérêt du tai chi, c'est quand même de mettre tout ça en œuvre dans son quotidien. Ça n'est pas que de pratiquer une heure ou deux heures ou trois heures par jour.
Sport pour
ou voilà. Voilà, ce n'est pas que ça. L'intérêt, c'est d'essayer de l'introduire dans son quotidien. Donc par la respiration, parce que quand on sent qu'on est stressé, que ce soit au travail ou dans la rue ou d'une façon ou d'une autre, bon, bah on peut mettre en œuvre tout de suite des techniques respiratoires qui peuvent empêcher un individu d'être violent. Par exemple, même soi-même, de sentir une colère monter en soi qui pourrait être violence, parce que ça n'empêche pas que nous sommes des hommes. Donc, la colère existe. Et donc, Et donc, c'est toutes ces choses, toutes ces techniques liées à la respiration, donc, qui permettent d'avoir un certain calme intérieur.
Donc, vous évoquiez l'accord entre le corps et l'esprit. Donc, c'est véritablement quelque chose que vous avez ressenti.
Ah oui, absolument. Et je trouve que c'est très unifiant, en fait. Comme nous sommes tous, à mon avis, un petit peu schizophrènes, c'est une façon d'être mieux et de mieux être.
De reconnecter ses sensations et les parties de son corps.
Voilà, absolument. Et donc cette cognition au niveau du cerveau droit et cerveau gauche, on connaît maintenant le fonctionnement, fait que c'est très favorable. Et puis on sait également que les neurones du cerveau, lorsqu'ils ne fonctionnent pas, ils s'endorment. Et quand on les réactive, ils se réactivent, donc ils refonctionnent. On connaît ça maintenant, la plasticité du cerveau, c'est quelque chose de bien connu dans les neurosciences. Donc ce qui fait que, en fait, rien n'est jamais perdu dans notre vie. On peut toujours apprendre, même si on apprend moins vite et moins rapidement et ça nécessitera plus d'efforts, mais on peut toujours s'améliorer. En fait, le cerveau est encore une matière à développer, si je puis dire.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, en une période où, en France en tout cas, la population vieillit, sentir qu'après tout, on peut encore toujours, c'est positif ça.
Oui, c'est absolu.
On peut toujours s'améliorer, on peut toujours pratiquer un sport, on peut toujours apprendre, et c'est quand même, ça ouvre des perspectives intéressantes. Alors où est-ce que ça se pratique à Dreux ?
Bien, à
Dreux... C'est la fin de notre émission.
Oui, à Dreux, il y a deux lieux où ça peut se pratiquer. Enfin, il y a deux clubs, je vais dire. Il y en a un qui est au Cercle Laïque, donc qui est animé par Chintrin, et un autre club qui a été créé plus récemment, il y a 3 ans maintenant, et qui permet de pratiquer soit sur Dreux, mais plutôt sur Vernouillet et sur Abondant. Actuellement, ce sont les deux lieux où on peut pratiquer. Donc, il y a des différences entre les deux pratiques, mais l'esprit du tai chi reste le même. C'est-à-dire que l'esprit du tai chi, quelle que soit la forme, quel que soit le maître qui vous apprend, reste le même. Les principes du tai chi sont immuables.
Et donc, se renseigner d'une part au Cercle Laïque et d'autre part ?
D'autre part, chez Michael Thibault, dans l'association Jing Li.
Jing Li. Alors, pour résumer, il y a une petite phrase, vous m'aviez dit.
Il y a une petite phrase qui symbolise assez bien cette pratique, c'est « User de la douceur pour venir à bout de la dureté et user de la dureté pour soutenir la douceur. »
Et donc, dans tous les cas, c'est plutôt mettre en œuvre la douceur.
Voilà.
Donc l'aspect positif des relations.
Voilà, exactement. Ça n'est pas du tout, justement, et c'est cette énergie interne qui, lorsqu'elle est mise en œuvre, permet plutôt d'accéder à la douceur que d'accéder à la dureté et à la violence. En fait, je pense que c'est un excédent contrepoison à la violence.
Merci Michel Kirzin d'être venu nous parler du tai chi et de ses bienfaits.
Merci de votre accueil.
Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.